Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La pédiatre et ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, Joanne Liu, témoignait récemment de l'annulation de sa conférence à l'Université de New York. Parler des victimes humanitaires de Gaza et de l'aide internationale constitue maintenant des sujets sensibles pour les universités américaines. La menace du gouvernement américain de retirer 400 millions de dollars américains à l'Université de Columbia et les importantes compressions financières touchant la fonction publique américaine pousse de nombreuses institutions à modérer leurs propos. Certains diront à faire de la censure. Les licenciements, les changements politiques et le retrait de contenu affecteront la science tout autour de la planète, par exemple en retirant la disponibilité de données sur le climat ou en santé. Cela affecte aussi la recherche canadienne, particulièrement celle qui se fait dans nos universités. Le mouvement Stand Up for Science, Debout pour la science, organisait récemment une large manifestation à Washington, D.C. pour s'opposer aux politiques répressives de l'administration Trump à l'endroit de la recherche scientifique. Quelles sont les conséquences des politiques américaines pour les universités et la science d'ici? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous voulons parler non pas de tarifs, mais plutôt de compression financière et de changement d'orientation politique américaine et de leurs répercussions pour les universités et les équipes de recherche d'ici. Nous en parlons avec le professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte et professeur titulaire à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information à la faculté des arts et des sciences de l'UQAM. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Vincent Poitou, vice-recteur désigné à la recherche, découverte, création et innovation à l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Bonjour.
Bonjour.
Donc, nous constatons un recul de la science aux États-Unis et de sa participation à la science mondiale, par exemple son retrait à l'Organisation mondiale de la santé ou encore de l'accord de Paris sur la lutte au changement climatique. Les nombreuses compressions financières, les licenciements au sein d'agences fédérales, en santé notamment, et les suspensions de subventions frappent les équipes de recherche américaines, mais aussi canadiennes. Les États-Unis constituent le plus important partenaire de science canadienne et québécoise, sans compter que les investissements américains en recherche et développement sont beaucoup plus considérables que les nôtres au Canada. Pour commencer, je vais commencer avec vous, professeur Larivière. Parlez-nous du rôle central des investissements américains en recherche et de la comparaison peut-être avec ceux du Canada. Quel est l'ordre peut-être de grandeur de tout
écoutez,
ça?
Écoutez, en termes de population, on dit en général que les États-Unis, c'est 9 à 10 fois plus gros que le Canada. Mm-hmm. Mais en termes d'investissement en recherche et développement, on est à 23 fois. Plus élevé. Bien, évidemment, il y a une grosse partie de tout ça qui vient des entreprises privées. Donc, le secteur industriel américain investit beaucoup en recherche, beaucoup plus que le Canada, qui est quand même historiquement une économie de ressources naturelles. Mais indépendamment de ce que les entreprises investissent, il y a énormément d'argent qui est investi via l'État, à partir de principalement deux organisations qui sont la National Science Foundation, qui finance les sciences naturelles et les sciences sociales, et puis les National Institutes of Health, qui combinés investissent. Bon, encore là, pour donner quelques chiffres, le Canada investit autour de 4 milliards, le gouvernement fédéral investit environ 4 milliards de dollars canadiens en recherche. Ben, ces deux organisations-là, à elles seules, en dollars canadiens, investissent probablement autour de 55 milliards, 60 oui, milliards. Donc, c'est énormément d'argent en recherche qui a évidemment permis, et on y reviendra bien sûr sans doute, d'attirer énormément de scientifiques au sein du pays depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Quels seront les impacts, selon vous, des coupes budgétaires en recherche aux États-Unis sur la recherche mondiale, peut-être, avant de parler de la nôtre?
Oui, écoutez, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire la différence de montant, et puis le fait que les États-Unis ont joué un rôle absolument moteur dans le développement de la recherche mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis même avant, les NIH, ça fait 100 ans que ça existe. Donc, il y a un impact absolument considérable partout dans le monde. Puis je pense que c'est ça qui est au-delà de ce dont nous parlerons probablement tout à l'heure, c'est-à-dire précisément l'impact sur la recherche au Canada ou des fonds américains. Si un joueur aussi majeur disparaît de l'écosystème scientifique mondial, tout va ralentir. La recherche est de plus en plus interconnectée. Je pense qu'on estime à un tiers à un quart des publications scientifiques qui sont faites en collaboration avec des chercheurs aux États-Unis. Des grands projets, qui sont souvent des grands projets très structurants avec beaucoup d'impact, ont des sources de financement diverses, de multiples organisations, de multiples pays. Donc, malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas capable de mesurer l'impact précis que ça va avoir, mais c'est clair que si vous enlevez un joueur, la contribution d'un joueur majeur, et surtout dans une perspective où ce n'est pas juste qu'on arrête le financement, mais c'est qu'on introduit des considérations idéologiques, manifestement, où on arrête en priorité des recherches qui concernent des domaines particulièrement importants, notamment sur des populations défavorisées, le climat, l'identité de genre, enfin tout ce qui ne plaît pas à l'administration américaine actuelle. Ça va avoir un effet très pervers sur l'ensemble de la recherche, qui est très interconnectée et de plus en plus. C'est difficile de définir précisément, d'assigner une découverte à une équipe particulière, parce que c'est souvent une construction d'avancée de plusieurs équipes qui arrivent à une certaine coalescence à un certain moment.
Oui, peut-être, professeur Larivière, je sais que c'est un petit peu, j'allais dire, votre dada, mais la recherche, les publications. J'aimerais que peut-être...
On peut dire quelques
chiffres mots sur les publications.
Donc, les États-Unis, comme le disait mon collègue, évidemment, sont au cœur de l'écosystème depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont attiré plein de scientifiques allemands. Donc, l'exode vers les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, l'exode des scientifiques de l'URSS pendant la guerre froide. Au début des années 80, les Américains représentent environ 40% de tout ce qui se publie à l'échelle mondiale. Donc, c'est pratiquement la moitié, un peu moins quand même. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc, ça, c'est une tendance lourde quand même. Donc, il y a des trucs qui sont indépendants de la situation politique américaine où il y a un déclin relatif qui est en grande partie causé par la montée équivalente de la Chine qui, aujourd'hui, il faut le rappeler, publie presque deux fois plus que les Américains en termes de volume. Maintenant, en termes de qualité, là, disons, peu importe comment on le défie, on voit que bon, c'est pas toujours équivalent, mais il y a quand même beaucoup de bonne science qui sort de la Chine. Maintenant, ce rôle-là d'acteur central, il est extrêmement important encore. Donc, les États-Unis sont le principal partenaire du Canada, mais sont aussi le principal partenaire d'à peu près tous les pays à l'échelle mondiale. Évidemment, là, la Chine prend plus de place, donc devient aussi un attracteur important. Mais c'est vraiment le joueur central. Puis bon, on parle de publication, mais il faut parler aussi d'infrastructures de recherche. Donc, la capacité que les Américains ont eue à créer des gros équipements de recherche, que ce soit des accélérateurs de particules ou des télescopes. Donc, on est un peu dépendant de tout ça. Des domaines comme, par exemple, l'astronomie, l'astrophysique, où à peu près 90% de ce qui se publie est en collaboration internationale, bien, va avoir souvent soit les États-Unis ou soit l'Europe comme partenaire principal. Donc c'est cette attaque-là à la science qui est idéologique, comme ça a été mentionné, elle est extrêmement importante. Mais il faut mentionner quand même que l'attaque idéologique, elle est double. Parce que d'une part, il y a une attaque à l'État. Donc on attaque l'État en disant il faut que l'État soit le plus petit possible. Donc une idéologie de droite qui dit bon, on ne veut pas avoir d'intervention de l'État, donc on doit couper partout. On ferme le département d'éducation, on coupe les NIH, on coupe la NSF, donc on coupe partout. Mais en plus de ça, la science, puisque c'est un outil, on pourrait dire, d'émancipation de la population, bien, on l'attaque aussi de façon importante. Et on attaque donc spécifiquement des thématiques qui sont bon, considérées comme étant... qui sont, en fait, pour les gens qui ont une idéologie de droite, on attaque des thématiques qui sont considérées comme ayant une idéologie de gauche.
Oui. Le département américain de l'efficacité gouvernementale, l'initiative d'Elon Musk, multiplie les licenciements et les gels des fonds fédéraux. Ça affecte la fonction publique américaine avec des coupures de nombreux postes en santé, mais aussi le démantèlement d'agences comme celles dévouées au développement international, sans compter le changement problématique d'orientation du service numérique. Donc, j'allais vous demander justement comment ça allait nous affecter.
Les postes qui sont coupés, c'est pas juste des postes de fonctionnaires qui gérer des programmes, c'est aussi des postes de scientifiques à l'intérieur des murs du gouvernement américain. Puis bon, ça, c'est des gens de partout dans le monde, mais en plus de ça, bon, puisqu'on est aussi récipiendaire de financement américain, ben, ça va nous toucher, évidemment. Ouais, ça nous touche.
Oui, oui, oui. Professeur Poitou, quels sont et que seront les impacts des coupes budgétaires en recherche aux États-Unis sur la recherche canadienne et ou la recherche québécoise? Comment vous voyez ça?
Oui, mais alors, je pense qu'il faut distinguer l'impact direct de coupures potentielles de financement qui bénéficiaient à des équipes canadiennes. Bon. Alors, il ne faut pas perdre de vue que ça reste quand même le montant de subventions provenant d'institutions, d'organisations américaines pour financer des recherches au Canada, globalement, est quand même relativement limité. Je pense que dans les grandes universités de recherche canadiennes, on estime peut-être entre 2 à 4 %. Parce que,
c'est une bonne nouvelle.
Oui, attendez, c'est peut-être la seule. Mais on a au Canada des mécanismes très solides à travers nos gouvernements, à la fois fédéral et provincial, de financement de la recherche. Donc je ne peux pas dire qu'on ne dépend pas des États-Unis. Ça ne va pas nous toucher du tout directement au point où ça touche le secteur de construction automobile, par exemple. On est beaucoup moins dépendant. Alors, c'est vrai, globalement, il faut quand même se rappeler que certaines de nos équipes, dont des équipes de recherche très performantes, elles sont beaucoup financées par les États-Unis. Donc, l'effet global va être relativement modeste, en tout cas j'espère, mais certaines équipes de chercheuses et de chercheurs très performants, parce qu'ils sont capables d'être en compétition avec les meilleures équipes au monde, vont être affectées si les financements s'arrêtent. Puis une partie du problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'inconnu total, hein, sauf pour certains domaines, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais certaines équipes très performantes vont être touchées, certains projets et certaines équipes vont être touchées parce qu'il y a des financements NIH qui sont des financements qui financent une partie du travail qui va être fait. Moi, j'en ai un comme chercheur.
Oui, c'est ça. Vous pensez à quoi concrètement?
Alors concrètement, je peux vous donner l'exemple d'une équipe de recherche au CHUM qui travaille sur l'implémentation de thérapies de prévention du VIH, par exemple, dans les populations qui sont des utilisateurs de drogue. Un projet qui est mené et administré par l'Université Columbia qui a été arrêté. Okay, donc une partie du projet est réalisée au CHUM parce qu'il y a des cohortes au CHUM, partie du projet réalisé aux États-Unis dans plusieurs universités, c'est un projet qu'on appelle multicentrique, ce sont des essais cliniques, ça s'arrête. Donc là, il y a un impact direct. Ouais. Moi, j'ai un projet qui est financé en partie par les NIH américains, qui est piloté par l'Université de Californie à Davis. On n'a pas d'indication que le projet a été arrêté, mais il y a un tel retard, puis là je reviens aux suppressions de postes que vous mentionniez tout à l'heure, ce que ça a créé, premier effet, c'est un retard considérable dans tout le traitement des subventions aux États-Unis. Il n'y a plus personne pour les traiter. Alors d'abord, il y a quelques semaines, il y a plusieurs rencontres d'évaluation des demandes de subventions et plusieurs rencontres des conseils des NIH qui prennent les décisions de financement. Pendant plusieurs semaines, ces rencontres ont été interrompues, donc le système a pris beaucoup de retard. Et donc, on ne sait pas. Alors, tout le monde est en attente de renouvellement. Puis l'effet indirect des coupures que je voulais mentionner, ça a été un petit peu évoqué par mon collègue, mais c'est aussi l'effet indirect des décisions qui sont prises en aval par les universités. Parce que quand les financements s'arrêtent, les universités ne les reçoivent pas. Donc les universités, elles, coupent leur financement. Vous avez vu, par exemple, les admissions dans des programmes de troisième cycle qui ont été annulées alors que les candidats avaient reçu une lettre d'acceptation dans un programme de troisième cycle. Ils ont reçu une autre lettre en disant... désolé, mais finalement, on ne peut pas vous prendre. Parce que les universités ont... Alors après, il y a toute la question des frais indirects, mais simplement sur le renouvellement. Il faut comprendre que même si une subvention... Je prends toujours l'exemple du NIH parce que c'est le domaine que je connais le mieux, mais même si une subvention est initialement approuvée pour 4 ans, on doit recevoir une lettre d'octroi tous les ans parce que l'octroi final du budget dépend du budget approuvé au Congrès, évidemment. Alors, c'est ça qui est en retard en ce moment. Donc, c'est des projets qui ont déjà passé les stades d'évaluation scientifique, qui sont dans la machine, qui devraient être renouvelés, ils roulent. Mais là, moi, mon projet s'arrêtait, l'année fiscale s'arrêtait le 31 mars, la semaine dernière, ou je ne sais pas quand c'était, lundi. Et là, je ne sais pas si on a du financement. Ouais,
on est un peu dans le flou, finalement. Mmh. Professeur Larivière, vous avez écrit une lettre d'opinion dans les journaux sur les conséquences scientifiques du démantèlement de l'État américain. Pouvez-vous rappeler le détail, peut-être, des attaques financières et idéologiques de la science?
Mais je les ai un peu mentionnées tout à l'heure, mais bon, l'attaque idéologique, elle est double. Je vais faire ça rapidement, mais évidemment, on s'attaque à certaines thématiques, puis on s'attaque à l'État dans l'ensemble. Mais il y a des exemples, encore là, un peu plus concrets. Puis ça montre comment, encore là, on est dépendant des États-Unis à plein niveau, et entre autres sur la question des infrastructures documentaires. Donc, dans le domaine médical, il y a un outil qui s'appelle PubMed, qui est géré par les NIH, qui sert en fait au monde entier pour découvrir de la littérature scientifique. Donc, le site de PubMed, il est géré par les NIH, il est sur le site web du NIH. Donc, pendant une fin de semaine, il y a environ un mois, tout le site du NIH ne fonctionnait pas à l'extérieur du pays. On faisait supposément des opérations de maintenance sur le site. Donc, personne ne pouvait se servir de PubMed. Okay. Et là, quand le site web est revenu et s'est mis à fonctionner, bien là, il y avait certains mots-clés qu'on ne pouvait plus chercher. Et là, je parle évidemment du site web des NIH, pas de PubMed, qui n'est pas encore censuré comme le site web des NIH. Bien, c'est l'étape suivante. Donc, les conséquences, bon, elles sont financières, elles sont idéologiques, mais elles sont aussi dans l'activité concrète des chercheurs et des chercheuses à travers le monde. Donc, on va le répéter souvent, mais c'est pas banal ce qui se produit en ce moment. C'est assez unique et c'est assez soudain.
Est-ce que ça risque de toucher plus la science fondamentale ou ça risque de toucher
ça touche tout?
Non, je pense que ça dépend dans quel domaine. Je pense que le secteur le plus à risque, c'est probablement le secteur des sciences humaines et sociales, parce que c'est celui qui est souvent vu comme étant un peu moins, entre guillemets, utile à l'activité économique. Or, typiquement, les gouvernements plutôt d'idéologie de droite voient la science comme un outil de développement économique et non comme un outil de production de connaissances pour mieux comprendre le monde. Alors, dans ce sens-là, je pense que le secteur sciences humaines et sociales est très à risque. La science fondamentale, ça dépend. Si c'est pour comprendre comment fonctionnent les escargots, peut-être, mais si c'est pour mettre au point des nouveaux matériaux pour améliorer, les batteries, c'est probable que ça se soit préservé.
Mon collègue a raison. J'ajouterais en plus que même la science appliquée a besoin des universités. Donc, les gens qui vont faire de la recherche appliquée en entreprise ont fait des doctorats en recherche fondamentale au sein des universités. Donc, d'affaiblir la recherche fondamentale va de facto affaiblir la recherche appliquée. Donc, il n'y a pas de... La conséquence va être ressentie partout. Mm-hmm. C'est pour ça que quand on regarde les actions... On voit une certaine incohérence quand même dans les actions de Trump, bon, c'est pas surprenant, mais d'Elon Musk aussi, qui à certains égards, va couper de la recherche qui, lui, a servi historiquement dans sa propre entreprise économique. Et c'est pour ça qu'il y a des débats au sein des Républicains sur les fameux visas pour le personnel hautement qualifié qu'une certaine partie des Républicains veut voir couper parce que ça contribue à l'immigration. Mais je lui dis, attendez une minute, là. Moi, je les veux, ces immigrants économiques-là qui sont hautement qualifiés. Donc, il y a des lignes de brisure quand même dans tout ça.
Restons dans les universités. Comment vous pensez que ça va affecter l'Université de Montréal?
Alors, je pense que ça va affecter...
les universités
de manière générale, canadiennes. Les universités canadiennes. C'est un partenaire très proche, évidemment, géographiquement. Vous savez, quand on a besoin d'une expertise particulière dans un laboratoire qu'on n'a pas au Canada, puis ou une population particulière ou un équipement qui est extrêmement spécialisé, on se tourne quand même relativement spontanément vers le sud. C'est nos voisins. On va ensemble dans des congrès scientifiques. On partage beaucoup de choses. Donc, ça va ralentir considérablement les collaborations multiples avec les universités américaines. Je dirais que ça crée une atmosphère de méfiance qui n'est pas du tout propice à la création. Les déplacements aux États-Unis, vous avez suivi les différentes consignes, le rappel des consignes qui a été envoyé par l'Université de Montréal, on a beaucoup parlé ces derniers jours. Les gens sont méfiants, les étudiants qui sont dans des situations de visa d'études sont probablement pas confortables
J'ai
une étudiante cette année, un peu plus tôt, heureusement, qui est d'origine mexicaine, qui fait son doctorat dans mon laboratoire dans un programme de l'Université de Montréal, qui est allée passer, grâce à un financement canadien, un stage d'un mois à l'Université de Miami, chez les collègues, pour apprendre une technique particulière. Ce genre d'échange est extrêmement enrichissant pour les étudiants et pour les universités et les laboratoires canadiens. ils vont diminuer de fait.
Oui, ouais, ça évident. Va risquer de s'arrêter. Mais professeur Larivière, vous aussi, ça va toucher vos champs de recherche. Oui. Ça risque de toucher certains de vos projets parce qu'on ne peut vraiment plus parler ou s'intéresser à l'identité de genre, aux femmes.
Mm-hmm. Non, exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est que bon... dans la première administration Trump, il y a quand même eu certaines attaques. Alors moi, j'ai des projets avec les États-Unis depuis, bon, disons, un peu plus d'une quinzaine d'années. Donc, j'ai fait mon postdoc aux États-Unis. J'ai développé des collaborations avec des scientifiques du pays. Et on s'intéressait, donc, pendant la première administration Trump, déjà aux femmes en sciences ou aux enjeux d'équité et diversité. Et mes collègues avaient quand même eu certaines pressions institutionnelles à dire, bon, OK, votre projet, il est quand même un peu... certaines parties du gouvernement ne l'aiment pas tant. Et donc, on avait demandé des modifications cosmétiques, principalement au résumé du projet financier qui se trouve à être sur le site de la NSF à l'époque. Donc, ces modifications-là étaient quand même habituelles. Et là, mes collègues américains, avec la nouvelle administration Trump, ont eu la même demande, mais là, c'était plus des modifications cosmétiques. On devait enlever complètement la dimension, disons, EDI du projet. Et les projets étaient essentiellement sur cette question-là, sur la question encore là de la diversité des équipes de recherche aux États-Unis. Et là, mes collègues américains ont dit, ben là, si on enlève cette dimension-là, il n'y a plus de projet. Mmh. Et là, effectivement, on est dans les limbes quant au financement du projet. En toute probabilité, le financement va être coupé, mais encore là, il y a toujours une incertitude parce que l'information ne circule pas. Il y a une improvisation complète, en fait.
Oui, j'aimerais qu'on parle des jeunes chercheurs et chercheuses. Comment, justement, ils vont être affectés par tout ça? Parce que tous les deux, vous avez fait des postdoctorats quand vous étiez jeunes aux États-Unis. Je suis bien informée. Donc, vos équipes, ben, c'est ça, des jeunes qui travaillent avec vous? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir, justement, bénéficier au professeur Poitou?
Ouais, je pense qu'on peut voir les deux côtés de la médaille. Ça crée quand même une opportunité pour le Canada, ne l'oublions pas.
On va les garder quand même,
c'est pas tellement les garder, mais des post-docs de n'importe où, des étudiants finissant leur PhD de n'importe où dans le monde, qui vont peut-être venir au Canada qu'aller aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut aussi garder ça. Dans tout ce malheur, voyons aussi les opportunités de recrutement pour le Canada. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais oui, ça m'inquiète pour les jeunes scientifiques, pour la relève de manière générale, parce que les États-Unis étaient quand même formaient quand même beaucoup de scientifiques, donc là, si les universités sont plus capables de former des PhD, on va avoir un gros problème de relève globalement dans le monde. Pour nos étudiants, il y a d'autres options, il y a des très bons laboratoires en Europe, en Asie, je sais pas où, on peut toujours travailler avec eux pour trouver des solutions alternatives, mais c'est sûr que ça ferme des portes.
Oui,
évident.
Sur la rivière.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et il faut voir, en fait, que dans tout ça, bon, on passe beaucoup à nos étudiants ici, mais les premières victimes, c'est les jeunes scientifiques américains. Oui. Les gens qui étaient dans des postes non permanents, qui sont vus perdre leur emploi assez rapidement, en fait, dans certaines agences. Donc, une génération de jeunes scientifiques américains qui est en ce moment quand même un peu sacrifié. Évidemment, on peut essayer d'en attirer ici sans pénaliser nos propres étudiants, nos étudiantes qu'on a formés. Mais c'est vrai qu'il y a une opportunité. Mais pour saisir cette opportunité-là, ça prend à la fois une vision, je dirais, de la part de nos différents paliers de gouvernement, mais ça prend aussi des ressources financières. Et il faut admettre quand même que le Canada, ni le Canada, ni les universités canadiennes ont les mêmes ressources. Les universités américaines, puis j'aimerais ça qu'on en parle un peu, sont extrêmement riches. Beaucoup plus riche que les universités canadiennes et québécoises. Il y a historiquement aux États-Unis la pratique de donner des montants immenses, de la philanthropie. Les universités américaines, donc les universités où moi j'étais affilié aux États-Unis, avaient des départements de philanthropie qui étaient probablement 10 fois plus gros que ce qu'on a à l'Université de Montréal et des fonds de dotation qui sont immenses. Une université comme Harvard, de mémoire, est autour de 55 milliards de dollars de philanthropie. Donc on aurait pu penser ou espérer que les universités américaines, compte tenu de leur richesse, pourrait tenir tête à l'État américain. Une université comme Columbia qui se met à terre pour 400 millions, elle aurait pu absorber ça avec son fonds de dotation plutôt que de se plier automatiquement. Donc, ça pose des questions, à mon avis, qui sont extrêmement... Bon, ça montre que le système américain, universitaire américain, n'est peut-être pas aussi solide qu'on pensait, mais que peut-être aussi une partie des décisions sont peut-être pas prises pour la science, mais davantage... C'est bien plate de le dire, mais pour l'argent qui est dans le fonds de dotation.
Oui. J'aimerais, pour terminer justement, qu'on parle, professeur Poitou, vous parliez d'opportunités.
Si on suivait les recommandations de ce rapport Bouchard, qui date d'avant Trump 2.0, on pourrait déjà augmenter ou redonner au Canada une place de choix dans les grands pays du monde qui contribuent à la génération de connaissances. Puis ça rejoint ce qui était évoqué plus tôt sur la différence entre notre investissement R&D en pourcentage de notre PIB versus, vous savez, on est parmi les pays du G7, on est l'avant-dernier, il y a juste l'Italie qui est après nous, tout le monde est devant. Alors ça, c'est une première opportunité. L'autre opportunité, c'est une opportunité dont on parle beaucoup en ce moment, c'est une opportunité de recrutement à la fois de chercheurs, chercheuses, donc d'inverser la fuite des cerveaux, et puis d'étudiants. Pour les chercheurs et chercheuses, on a un très beau mécanisme au Canada en ce moment qui s'appelle les chaires d'excellence en recherche du Canada, qui est un programme fédéral qui est justement destiné à recruter les meilleurs cerveaux de l'étranger. Alors, on ne va pas recruter 600 personnes, hein, parce qu'il y a une question de coût. C'est compétitif. C'est un programme qui a un certain financement, mais pas non plus infini. Mais je pense qu'on doit saisir ces opportunités. Et je peux vous dire que dans nos centres de recherche et nos départements, on a régulièrement ces derniers jours des appels de collègues qui sont intéressés à envisager de déménager au Canada. Puis après, il y a tout ce que je disais sur les étudiants postdoctoraux, les stagiaires postdoctoraux en particulier, voire des étudiants au PhD qui voudraient venir. Bon, au Québec, on a la question évidemment de la langue. Là, pour les profs, il faut qu'ils parlent français quand même. Mm-hmm. Mais ce sont des opportunités. Je pense que dans toute cette débâcle, il faut savoir les saisir.
Oui. Professeur Larivière, un mot rapide, très très rapide, positif.
Ah oui, écoutez.
Si on va dans le positif.
Oui, dans le positif, il y a une opportunité pour effectivement attirer, à mon avis, le plus de jeunes chercheurs possible. Il y a un projet collectif qu'un nouveau gouvernement à l'échelle fédérale pourrait mettre en place où effectivement on essaie justement d'aller attirer ces jeunes scientifiques-là chez nous qui, comme on le sait en fait depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vont contribuer à l'économie. Donc les investissements en recherche et développement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc ça permet d'améliorer la situation.
Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie du professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte, et de Vincent Poitou, vice-directeur désigné à la recherche, donc à l'Université de Montréal. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Voilà, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio-VM. Comme toujours, à la régie de cette émission, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimez cet épisode, partagez-le autour de vous, réécoutez-nous et suivez pour ne rien manquer la page de l'émission de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer tous et toutes une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jianghua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes.